Salut, salut tout le monde. Vendredi le 10 janvier, est-ce que nous vivons à nouveau le supplice de la goutte et quelle sera la goutte qui fera déborder le vase? Autre séquence de défaites et une autre séquence qui atteint le cap des 8 défaites consécutives pour le Canadien de Montréal et même l'entraîneur est à court de mots.
C'est simple, on n'a pas le droit d'abandonner puis on n'a pas le droit de s'apitoyer sur notre sort. On est payé pour faire un travail puis faut continuer à s'y trouver la solution. C'est aussi simple que ça. Puis on est à bout de réponse. Comme tu peux voir, là, il n'y a rien que je vais dire ce soir qui n'est pas comme les autres fois. On a des chances de marquer, on manque des chances de marquer. Et puis éventuellement, ça vient et ça nous rattrape.
Tels étaient les mots de Claude Julien hier après la rencontre. Ici Mario Langlois en compagnie de Philippe Quentin, Jérémy Filosa et Alexandre Pratt. Bienvenue à Sortie de zone. Salut les gars.
Salut, salut, salut Mario, salut. Salut tout le monde.
J'ai senti que vous aviez particulièrement hâte de faire cette sortie de zone-là. Je ne sais bien pas pourquoi. Alexandre, ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas entendu à Sortie de zone. Peut-être qu'on va te laisser commencer.
Ben oui, moi je voulais parler des Blue Jackets aujourd'hui.
Ben je suis content que tu sois là.
Non, mais vraiment, deux séquences de 8 défaites consécutives. J'ai aucun souvenir dans l'histoire moderne du Canadien que ça survit. J'ai pas vérifié les statistiques, là. Mais c'est quand même une crise très importante. Je pense que de toutes mes années de couverture, c'est probablement la crise la plus importante présentement. On critique à la fois les joueurs, le coach, le directeur général, le président de l'équipe. Ça fait beaucoup de gens là, vers qui tous
on,
les
on ne sait plus où donner de la tête.
Non, mais pour vrai, c'est un petit peu
façon.
Ça.
Ouais, puis et même dans l'analyse, il faut se questionner. Je pense que vous faites tous l'exercice parce qu'on veut pas tirer à boulet rouge.
Non.
C'est pas la réputation de personne ici autour de la table. Puis je pense qu'on essaie d'avoir l'analyse la plus juste possible.
Ouais, faut pas être trop émotif, mais d'un autre côté, faut faire les constats qui s'imposent et les constats ils sont déplorables. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Et on dit que tout le monde, tous les analystes, les amateurs sont un peu médusés par ce qui se produit avec raison, mais j'ai l'impression que c'est sûrement la même chose au 7e étage du Centre Bell. On voit très bien avec le ton de Claude Julien. Hier, c'était un peu triste là, de l'entendre après le match. Là. Quand il dit ce que je vais vous dire, il n'y aura rien de nouveau ce que je vous ai dit les autres fois. T'sais, c'est un constat terrible. Ça veut dire que cette équipe-là ne gagne pas. Et Marc Bergevin, qui nous disait encore récemment. Tu sais, l'équipe est exactement là où on voulait, en course pour les séries éliminatoires, laissant entendre que ce serait à peu près le cas jusqu'à la fin de la saison. Ben, deux semaines plus tard, c'est terminé, il n'y a plus de ça. Alors, mauvaise évaluation de l'équipe, très certainement. Et à travers tout ça, ben, je pense que la question qui se pose, que tout le monde a sur les lèvres, on en parle depuis une semaine, c'est que fait Jeff Molson, que fera-t-il? Est-ce qu'il va parler, lui, tout à coup? C'est quand même le président de l'équipe. Alors, tout ça, ça laisse planer énormément d'incertitudes autour du Canadien.
Jérémy?
Moi, je vais y aller dans une direction différente. J'ai le goût d'être optimiste un tout petit peu. Et je pensais à ça, puis je réfléchissais à la saison de l'année dernière où je me suis dit c'était pas mal la même équipe, peut-être à la différence près de Ben Sherratt. Et tu regardes ça puis tu dis ça a été une année où l'équipe a été en santé et ils ont connu une bonne année. Et ils ont connu une année où ils étaient à une victoire de participer aux séries. D'ailleurs, s'ils étaient dans la division métropolitaine, je pense qu'ils seraient entrés en série. Cette année, lorsqu'ils ont été en santé, c'est-à-dire à peu près jusqu'à quoi fin novembre ou quelque chose comme ça, l'équipe était parmi les trois meilleurs de la division. Et c'est là que je me dis, il y a quand même un peu d'espoir, puis je me dis, oui, il faut procéder à des transactions d'ici la fin de l'année, peut-être laisser partir certains joueurs qui ne feront plus partie des plans à long terme. Mais, tu sais, je me pose encore la question. Je regarde aujourd'hui sur le plafond salarial, là, c'est près de 7 millions qui est disponible aux Canadiens. Si le Canadien avait dépensé ces 7 millions l'année passée, aurait-il fait les séries? Et si oui, il se serait rendu où? Si le Canadien avait dépensé cet argent-là cette année, lorsqu'on aurait eu des moments plus difficiles, est-ce qu'on aurait eu une meilleure profondeur? Est-ce qu'on aurait pu traverser ces périodes-là plus facilement? Puis, en tout cas, moi, c'est l'optique que j'ai ce matin, tout en faisant le même constat que vous, bien sûr.
Ah, c'est pas facile.
C'est une saison à oublier, là.
Je pense que même les moins optimistes ne s'attendaient pas à ce que ça devienne aussi difficile.
Mais en fait, c'est super intéressant. Les maisons de paris sportifs, au début de la saison, là, donnaient entre 89 et 90 points pour le Canadien. Ils s'en vont vers une saison de 81, à peu près, là. C'est la deuxième pire équipe de la Ligue par rapport aux prévisions. La deuxième pire. La seule pire, c'est Détroit. Ça, d'habitude, il y a un taux de corrélation super élevé entre ça et le congédiement d'un entraîneur. Mais là, la question en fait présentement, c'est est-ce que Claude Julien est vraiment le responsable? Moi, je pense que non. Là. Ça va plus haut que Claude Julien.
Moi, j'ai l'impression aussi que la dernière saison, là, avec le recul, je pense qu'elle fait illusion. Je suis pas sûr que le Canadien était aussi puissant que ça l'an dernier. Il y a eu une conjoncture qui lui a été favorable. Et au premier rang, l'absence de blessés. C'est très, très rare dans une saison de la Ligue nationale de hockey que tu ne manques pas pour plusieurs matchs un joueur. Bien sûr, chez Weber, il est arrivé un peu en retard là, l'an dernier.
Mais c'est tout. Ils ont eu un mi à la fin, mais c'est
ça. Exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu les donner. Puis tu sais, l'autre histoire de dire que le Canadien a connu une super saison l'an dernier, moi, je trouve que si on trouve qu'une équipe qui participe pas aux séries éliminatoires connaît une super saison, c'est que nos attentes sont rendues basses, mais pas à peu près. Hey, on participe pas aux séries, puis tout le monde dit c'est extraordinaire comme saison.
Sauf
mais
que,
non, c'est
sauf
pas
que
extraordinaire.
L'année passée, Philippe, avec le nombre de points qu'ils ont accumulés, si je me trompe pas, et en tout cas, faudrait faire une vérification, mais ça faisait une vingtaine d'années qu'un club qui avait accumulé autant de points n'avait pas participé aux séries.
Ça faisait aussi autant d'années qu'autant de clubs avaient fait autant de points pour participer aux séries aussi. Donc, il y a plus de points qui se répartissent à cause des défaites en prolongation.
Quand on regarde la séquence actuelle de 2x8 défaites, à travers les conversations, j'ai pas eu autre choix que de penser à Jacques Demers et Serge Chavard quand ils ont été congédiés après 4 parties dans un début de saison qui semble pas être lancé sur la bonne piste. Et clairement, on est à une autre époque, autre temps, autre mœurs, différents standards, différentes réalités, mais disons que ça clash, là. Tu peux te permettre, sans vivre de grosses tempêtes, de vivre 2 séquences de 8 défaites consécutives, c'est quelque chose. D'entrée de jeu, c'est ça que j'avais envie de dire. Et je pense que là où ça fait le plus mal pour tous ceux qui ont voulu regarder ou qui veulent encore regarder le verre, un petit peu comme Jérémy, tu le fais, là, de garder un peu d'enthousiasme là-dedans, parce que je pense pas que personne a prédit que le Canadien allait gagner la Coupe cette année. Je pense pas que personne pensait que c'était au rendez-vous. Tout au plus, on s'est dit, ils ont peut-être une chance de faire des séries. On les a placés 8e dans quelques cas. Je suis l'un de ceux-là qui a pensé que peut-être une 8e place. Bon, puis là, il y a bien des raisons qui expliquent là où ils en sont. Je pense qu'on a refusé d'accepter le fait que ça te prend 2 gardiens solides pour attaquer une saison dans la Ligue nationale de hockey. Pour le reste, je pense que Marc Bergevin était lucide en début d'année. Souvenez-vous, il dit « Je suis pas stupide, je sais qu'on est moins bon sans AO ». Fait qu'à partir du moment quand tu réalises que t'as pas été capable de t'améliorer, tu fais quoi? Ben, tu te mets sur ton groupe, mais là, ça y pète d'en face. C'est-tu à cause des blessures? C'est parce que Carey devrait être meilleur? C'est parce qu'on donne trop de surnoms? Puis moi, une des raisons, puis c'est celle-là qui je trouve, fait le plus mal à la crédibilité de Marc Bergevin et du plan en place en ce moment, là, ce qui fait le plus mal, c'est quand on analyse comme faut la saison, il y a eu un exercice de fausse représentation qui a été fait là-dessus. Parce que le discours de Molson puis de Bergevin s'appuie sur l'avenir. Vous vous souvenez, c'est pas le premier qui essaie ça, ni les derniers. Les Nordiques, le meilleur est à venir. Puis on a surfé là-dessus très longtemps.
Les expos pendant 35 ans, oui.
Et quand tu décortiques, puis je pense pas que c'était, je sais pas qui a dit que c'était une saison extraordinaire l'an passé. Je pense que tu le fais un peu de façon caricaturale, puis c'est correct.
Non, mais disons que le bilan général était très positif.
Le Peeling a scoré 3,5 d'un scrimmage, puis là.
Jeff Molson a fait des high five là après le dernier match aux joueurs quand il est retraité au vestiaire. Ça envoie un message, ça.
T'as raison.
Ça envoie un message.
Puis si c'est là-dessus qu'il s'appuie pour penser qu'il y avait une bonne équipe, ben honnêtement, il fait pas un bon job ou il devrait consulter plus de monde de hockey. Mais pour finir mon histoire, moi l'affaire qui me fait le plus mal et où je pense qu'il y a un peu un discours qui est pas rimé avec la réalité, c'est que ils s'appuient eux sur l'avenir. Le meilleur est à venir. Écoutez, combien de fois on a entendu parler? Avez-vous déjà entendu parler plus souvent d'un gars qui a pas mis un coup de patin dans la Ligue nationale que Romanov à date? N'avez-vous entendu? C'est déjà arrivé dans votre histoire?
Et Cole Caulfield.
Écoutez, là, pour vrai, là, il est précédé de propos qui, c'est comme si on attendait la Lafrenière, mais c'est Romanov. C'est un défenseur qui peut-être va jouer dans le top 4. Peut-être. Fait que on carbure tellement à ce qui est pas là. Puis là, Caulfield va peut-être arriver cette année, boys. Peut-être cette année, il va jouer des matchs. Ah oui, ça, c'est une maudite bonne décision de développement. Amenez-les au plus vite. D'un coup, qu'il se ferait écraser puis qu'il pourrait finir avec une commotion cérébrale cette année. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est l'avenir. On pèle par en avant. C'est ça qu'on fait depuis un bout. Mais c'est la mort du reset, parce que le reset amène à la reconstruction. Puis là, on est dans reconstruction, mais les nouvelles briques sont pas prêtes. Fait qu'on installe des briques pour un mur qui va probablement tomber, parce que l'espoir, l'an passé, s'appuyait sur Kotkaniemi. Puis l'an passé, c'est la seule recrue dans l'alignement. Puis en deuxième moitié de saison, il est déguisé en Fantomas. Fait que l'an passé, si le Canadien a eu quelque chose qui ressemblait à quelque chose d'intéressant, c'est pas parce que c'est les jeunes qui les ont amenés là. Les jeunes sont pas arrivés. Puis ceux qu'on amène, ils sont, je pense que, à part Suzuki, la production des des jeunes, là, avant le match d'hier, là, en 127 matchs cumulés, c'est 35 points. Non, mais... J'ai pas le but de Kotkaniemi là-dedans. Puis Suzuki en avait 26. Puis Kotkaniemi, hier, il a scoré un but, mais toutes les fois qu'il touche à rondelle, il fait une gaffe.
Non, mais
l'espoir qui reposait sur lui, ben là, pour moi, c'est ébranlé solidement. Puis ça, c'est ébranlé. Je veux-tu laisser ces mêmes gars-là faire les autres choix l'an prochain? J'ai une petite hésitation. Aidez-moi, guidez-moi les boys.
Regarde-moi, je vais y aller là-dessus. Là. Le problème des équipes en reset ou en reconstruction, appelons ça comme on veut, là, c'est souvent d'amener trop vite les joueurs jeunes dans la Ligue nationale. T'sais, on veut le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne à Laval là, qu'on peut prendre présentement puis mettre dans l'alignement puis dire on va retirer Ryan Poehling. Mais je m'excuse. Ryan Poehling, présentement, il ne mérite pas ses minutes de jeu. Écoute, dans la séquence là, des 8 défaites, il est moins 5. C'est le joueur du Canadien de tout. T'sais, on attend souvent, oh, on veut que Ryan Poehling joue plus, on devrait le mettre à la place de Kovalchuk. C'est le joueur du Canadien qui tire le moins souvent au filet à 5 contre 5 par minute jouée. C'est le joueur qui génère le moins d'attaques dans toute l'équipe. Ça inclut les défenseurs. Ça inclut Cale Fleury qui a un point en 38 ou 39 matchs. Là, t'sais. Il y a un problème. Cale Fleury devrait pas avoir des minutes gratis présentement dans la Ligue nationale. Ryan Poehling devrait pas avoir de minutes gratis. Jesperi Kotkaniemi devrait passer son tour à l'occasion. Même à la limite, Suzuki devrait pas toujours jouer puis toujours avoir 18 minutes. C'est un problème parce qu'il n'y en a pas de profondeur. S'il y avait des joueurs de 26-27 ans pour prendre des minutes, ça serait pas un problème. Puis là, on chiale beaucoup. On dit, ah, comment ça que Cousins joue sur l'avantage numérique? Comment ça que Wiss joue sur l'avantage numérique? Je m'excuse, mais c'est à eux de jouer sur l'avantage numérique. Les jeunes, ils sont pas prêts pour ça. Leurs statistiques sont horribles à 55. On s'en rend pas compte, là. On est illuminé par ça. Mais le groupe de jeunes.
En début d'année, ils étaient bonnes à 55.
Oui, mais là, non, mais sérieusement,
mais là, ça
dans déraillé. Les deux séquences, c'est terrible. Et là, on pense, là, que le top 4 des jeunes à Montréal, il est très fort. Et quand on le compare au top 4 des autres équipes dans la ligue, on en parlait hors d'onde avant d'arriver. Quand on compare le top 4 à celui d'Ottawa, ou à celui des Rangers.
Top 4 des jeunes, là.
Le top 4 des jeunes.
Des jeunes
Rangers,
des espoirs.
Ou à celui des Canucks. Ou à celui, tu sais. On peut faire quasiment toutes les équipes de la Ligue. Ouais. Hey, c'est pas si
moi, c'est ça qui me fascine le plus quand j'entends, tu sais, qu'on vante les jeunes du Canadien, puis l'avenir, puis ils vont se développer, puis bon, tous les noms, Alex, que t'as mentionné, puis ceux qui s'en viennent, il y a un Finlandais aussi, puis là, il y a un défenseur suédois.
Ils sont tous prêts à jouer dans la Ligue l'an prochain, Philippe.
Ouais, ouais, oui, tous. Puis il y a un défenseur américain qu'on a découvert au championnat du monde, puis tu sais, ils sont tous extraordinaires. Mais oui, mais les autres équipes,
il y en a
aussi. Tu sais, t'as l'impression que seulement le Canadien qui a des espoirs. Mais... les autres équipes, il y en a. Puis regardez Ottawa, là, ils vont monter, puis la journée où ça va embrayer à Ottawa, ils ont probablement plus de talent dans leur groupe de jeunes que le Canadien, puis ils ont des choix au repêchage. Combien en première ronde? Deux en première ronde, probablement en juin prochain avec le choix des Sharks de San Jose. T'sais, eux autres aussi vont faire le point. Alors, le Canadien se retrouve dans une décision où, à court terme, et à court terme, je dis 2 à 3 ans, est-ce qu'on peut réellement penser que les Bruins, le Lightning puis les Maple Leafs vont beaucoup ralentir? Pas sûr.
Ottawa, les Sabres, pas du tout, non, ils sont en ascension.
Ottawa aussi va être en ascension. T'sais, ça va continuer d'être très difficile.
La bonne nouvelle, Jérémy, t'as rajouté?
Ben oui, ça me fait penser un peu à l'époque où les Yankees, toutes les recrues des Yankees, tout le monde en parlait, puis c'était les meilleurs, puis c'était les plus beaux, puis tout ça. Pourquoi? Parce que c'était un gros marché et on les épiait. Mais c'est un peu la même chose à Montréal. On regarde nos jeunes, puis on regarde nos futurs jeunes, puis on en parle comme si c'était des gars qui étaient déjà arrivés. Puis finalement, ben comme vous venez de le mentionner, il y a plusieurs équipes dans la Ligue qui ont aussi de bons jeunes espoirs. Donc faut pas... Tu sais, à un moment donné, là, c'est comme... le gars qui travaille toute sa vie, puis là, il économise pour sa retraite, puis là, il arrive à sa retraite, mais il continue d'économiser au lieu de dépenser. Je veux dire, depuis que Bergevin est là, on a beaucoup entendu, on veut pas sacrifier l'avenir. Mais à un moment donné, il faut que l'avenir soit le présent, parce que sinon, je veux dire,
c'est pas une mauvaise chose d'économiser dans la vie, là.
Non, je comprends, mais les gars...
Il faut qu'il y ait un but.
Mais je suis content que tu ramènes ça, parce que, tu sais, tu peux te maintenir à flot plus longtemps si tu dépenses plus de choix. Le Canadien pourrait avoir moins de choix en banque pour le prochain repêchage. Peut-être que là, Bergevin paraîtrait mieux en ce moment, mais il y aurait moins de choix en banque. Oui. Fait que vous savez que tu peux pas tout avoir en même temps. Il y a un certain niveau de compréhension de l'exercice en cours. Maintenant, et c'est là qu'on on traverse, j'ose croire qu'ils traversent une crise eux autres aussi, parce que je pense qu'on peut appeler ça une crise.
C'est sûr.
Et là, est-ce que, au-delà du plan, le plan c'est de faire jouer les jeunes, puis c'est de reconstruire, puis de rester compétitif, là c'est sûr qu'ils viennent de manger une méchante taloche, et leur banque de crédibilité est affectée parce qu'ils n'ont pas de succès récent.
Exactement. Puis Puis moi, il y a une chose que je veux ajouter qui me semble assez importante à ce moment-ci. C'est que tu as fait une entrevue avec Marc Bergevin en début de saison. Tu y as fait allusion tantôt. C'était super intéressant, tout ce qu'il t'a dit. Puis bon, il était lucide, comme tu l'as dit. Alex, t'en as fait une également. Puis je me souviens, Alex, d'une chose qu'il t'a dit à ce moment-là, Marc Bergevin. Il t'a dit la saison catastrophique qui avait été 2017-2018. Oui. Il t'a dit, je pensais qu'on était en voiture, mais après une dizaine de matchs, j'ai réalisé que je m'étais trompé, essentiellement.
Ouais, il a dit, j'ai essayé de changer l'équipe on the fly, j'ai fait des appels, j'étais incapable de faire un échange, j'ai vidé l'équipe à la fin de l'année.
Bon, c'est ça. Mais là, ça ressemble,
il avait appelé ça des drapeaux rouges. Ouais, j'ai demandé cette année, en début d'année, j'ai dit, vois-tu des drapeaux rouges? J'ai dit, je vois pas de drapeaux rouges.
Mais là, il en voit-tu aujourd'hui des drapeaux rouges?
Ce qu'il a dit, il dit, même si t'en vois des drapeaux rouges, puis là, il se souvenait sûrement de l'année à laquelle tu fais le change, l'année de l'attitude. Il dit, puis même quand t'en vois des drapeaux rouges, il dit, ben, souvent, il est trop tard, puis faut que tu vives avec.
Exactement.
C'est ça qu'il avait dit. Mais cette année, il a dit qu'il n'en voyait pas de drapeau rouge.
C'est une mauvaise évaluation. S'il n'y a pas vu de drapeau rouge, puis il y a deux séries de 8 revers consécutifs, puis que tu es à peu près éliminé avant même la fin du mois de janvier.
Il y en a des drapeaux
rouges. Dépendamment de l'importance que tu accordes aux absences. Comme quand.
Non, et puis ça va au-delà de ça.
Oui, je pense que oui, mais je veux juste l'amener dans la discussion pour être juste. Mais il y a quand même
la première série de 8 revers.
Il était pas mal tout là, sauf Drouin Byron.
Mais tu sais, Claude Julien a dit cette semaine, il dit, on a un problème de commitment. Là. Quand tu dis que tu es un problème de commitment, là, commitment en français, c'est l'attitude, on va dire ça comme on veut. Là. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui présentement ont un problème d'attitude avec le Canadien. On revient au même problème qu'il y a deux ans. C'est qui les joueurs qui présentement ont un problème d'attitude dans l'équipe? Là, il faut les identifier. Puis moi, je ne serais pas surpris du tout de voir Bergevin profiter de la date limite des échanges pour faire un petit peu le ménage dans l'équipe. Et moi, j'y crois pas du tout là, qu'il va être congédié, là, Marc Bergevin, avant la date limite des échanges. C'est un bon évaluateur du talent des autres équipes. Il a fait des très bons échanges depuis 3 ans. Je vois pas l'équipe s'en départir avant cette date-là.
Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les gars.
Attends, tu peux, Jérémy, Claude, il veut te dire quelque chose.
Je connais, OK. Tu sais, c'est quoi un commitment? C'est aussi simple que ça.
Bon, OK, c'est correct.
Mais vous parliez tout à l'heure du fait que, tu sais, des fois, quand tu vois un drapeau rouge, il est trop tard, puis il faut que tu vives avec. J'ai énormément de difficultés avec la façon dont les choses se déroulent présentement dans la Ligue nationale où t'arrives, tu fais ton mois de juillet, tu ramasses ce que tu peux ramasser, puis après ça, t'as beau faire des constats puis dire « on n'est pas assez bon », il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tu commences l'année en sachant que j'ai un trou là, puis je peux rien faire. Je me croise les doigts, puis on débute l'année, puis on s'en ira où on s'en ira, puis on s'ajustera au mois de janvier, février, à la date limite, dépendant de où on se trouve au classement. Je veux dire, c'est tellement difficile en tant que partisan de savoir cette réalité-là et de voir qu'on peut rien faire avec ça.
Imagine les fans des Leafs de Toronto puis des Oilers d'Edmonton
qui ont passé.
Moi, je me souviens, Marcel Dion m'a toujours dit quand je jasais, puis là, on est dedans, là.
Oui.
Tu sais, Canadiens, le monde, les amateurs du Canadien ont été gâtés pendant des décennies, là, c'est moins le cas, évidemment, puis des équipes canadiennes, mais là, on est dedans, là. Puis tu sais pas quand ça va finir,
non,
ça.
Mais non,
quand,
mais
quand les Oilers d'Edmonton, puis on peut dire toutes les bonnes affaires, quand ils ont repêché Taylor Hall, Nugent Hopkins, Yakupov, puis Chante, tu sais, ça,
imagine,
mais il a fallu qu'ils ressortent dans la cave comme il faut pour empêcher McDavid. Puis encore là, ils ont fait les séries une fois. Ben, fait que tu le sais quand ça commence, mais tu sais pas
Mario,
quand ça finit.
Y en a que ça
Caroline
finit
des années. Il y en a que ça finit jamais.
Les Thrashers d'Atlanta, là, on s'en souvient peu, là. Ils ont eu 4 années de suite des choix parmi les deux premiers, puis ils se sont pas nécessairement trompés. Ils ont eu Kovalchuk, ils ont eu... Ils ont eu Ossa, ils ont eu Lekkonen, puis ils ont eu le gars là, qui a frappé son char là, avec...
Danny Clay.
Hey, c'est pas 4 mauvais joueurs d'hockey.
Non.
Puis ils ont jamais fait les séries. C'est
une fois, ils se sont fait balayer en quatre matchs.
Et c'est une bonne nouvelle, et vous allez voir, je suis pas cynique, là. C'est la même affaire quand on énumère les premiers choix. La bonne nouvelle, c'est que c'est la meilleure équipe qui gagne. Et que dans les 31 dernières années, il y a juste 5 premiers choix overall qui ont gagné la Coupe Stanley. Et ce sont des exceptionnels. Puis ils n'étaient pas tout ça dans les équipes qui ont gagné. C'est Fleury, c'est Kane, c'est Crosby, c'est Le Cavalier, puis c'est Ovechkin. Ouais, on verra pour Matthews et McDavid. Ça reste à prouver. Ils l'ont pas gagné encore la Coupe. Fait que c'est la meilleure équipe. C'est qui arrive avec le meilleur alignement des as, vétérans, milieu, recrues. En ce moment, les recrues du Canadien s'affichent absents, à part l'exception Suzuki. Fait que moi, je vois ça comme quelque chose de réjouissant, comme de voir qu'en finale l'an passé, Saint-Louis et Boston se sont affrontés sans avoir tanké. Parce que on va y arriver. qui vous voulez changer, les gars? Jérémy, qui t'as envie de liquider? Puis est-ce qu'il faut liquider? Moi, je dis une chose. Attention si vous voulez tanker, parce que ça aussi, remarque la date où tu le fais, remarque la date où tu vas en ressortir.
Écoute, j'embarque là-dedans dans quelques instants, mais tu sais, on parle de transactions, puis quand tu fais des transactions, ça te prend des outils, ça te prend des valeurs, ça te prend quelque chose à offrir. Le Canadien a trois aspects que pas toutes les équipes de la Ligue nationale ont. Premièrement, ils ont l'argent, s'ils veulent dépenser. Deuxièmement, ils ont la place sous la masse salariale. Et troisièmement, ils ont des choix au repêchage. T'as quand même trois aspects, trois éléments avec lesquels tu peux travailler, mais malgré ça, on trouve pas la façon de danser. Maintenant, les joueurs que j'échangerais. Écoute, j'ai pensé à ça depuis 48 heures, puis il y a un nom qui me vient en tête, puis je le sais qu'ils le feront pas. Je le sais qu'ils feront pas. Mais on va se le dire. Shea Weber a retrouvé une valeur présentement sur le marché qu'on pensait pas que ce gars-là allait pouvoir retrouver il y a de ça 6 mois. Je pense que si on s'était parlé il y a 6 mois ou il y a 9 mois, on aurait dit reste plusieurs années, ça a l'air d'un gars qui commence à ralentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à... Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, Shea Weber aurait une valeur sur le marché des joueurs autonomes. Sur le marché des transactions. Mais connaissant Bergevin et connaissant le respect qu'il a pour l'homme, je ne pense pas qu'il l'échangerait, mais sa valeur est clairement à la hausse présentement comparativement à l'année dernière.
Ben, tu sais, moi, si on reparle de joueurs échangés, bon, puis de tanking. Le tanking, c'est pas un joueur ou deux, le premier choix qui change une équipe. Hein. Oublions pas, là, les meilleurs joueurs dans une équipe de hockey, ils jouent entre 20 puis 25 minutes par match, là. Non, ils sont assis 65% d'une partie. C'est pas comme au basket où tu pêches deux joueurs qui vont jouer 40 minutes par match, là. Ça prend une dizaine de bons joueurs dans une équipe de hockey. Donc, avant de tanker, soyons prudents. Moi, je pense qu'il y a trois joueurs de façon réaliste qui peuvent être mis sur le marché des échanges, là, dans les prochaines semaines. Trois gars qui deviennent autonomes dans 18 mois. Et si l'équipe s'en va en construction, je vois aucun des trois joueurs vouloir re-signer avec le Canadien et de passer à travers 4, 5, 6 ans de reconstruction. C'est Brendan Gallagher, Thomas Tatar et Jeff Petrie. Tu sais, Gallagher, évidemment, là, qu'on voudrait à Montréal le garder. Non, on voudrait le garder, mais mettons-nous dans sa position à lui. Ce ne fait jamais.
Hier soir, vous étiez dans le vestiaire, les gars, là, et tabarouette. Il avait l'air complètement diviné.
Brendan Gallagher, là, dans 18 mois, il va être le meilleur ailier droit et de loin à devenir joueur autonome. Il y a plein de clubs qui cherchent des ailiers droits, à commencer par les Oilers, qui ont quand même deux très bons centres, Dreisaitl et McDavid.
Puis un Gallagher, toi, tu veux pas ça pour jouer contre tes jeunes, là.
Si t'es le Canadien, tu le gardes, c'est un no-brainer. Okay, la question, c'est lui.
Ben oui, mais Alexandre, honnêtement, oui, c'est vrai que son opinion va compter, mais je parle du point de vue du dirigeant, là. Oui. Je veux dire...
Est-ce qu'on prend le risque à Montréal de laisser partir Gallagher sans rien avoir en retour dans 18 mois?
Le problème, c'est que lui va peut-être décider.
Ben oui, c'est ça exactement.
C'est ce qu'Alexandre dit. Il va devenir joueur autonome sans compensation.
Gallagher, là, Price a réglé ça quel jour, donc, de son autonomie?
Le 2 juillet.
Le 2 juillet. Parce que Gallagher, c'est le premier. Oui. Tant qu'à moi, Price peut être échangé. Gallagher, je pense pas que tu peux toucher à ça.
Non, mais il faut être deux à vouloir signer un contrat.
S'il y a quelqu'un qui incarne, je veux dire, tu arrives avec le beau chèque le 1er juillet à un an d'avance, je pense que Brendan Gallagher...
Donc, qu'est-ce qu'on fait, Brendan Gallagher, à 7 ans, 7 millions?
Ben oui, certain.
Ah oui. Sans problème.
C'est probablement ce qu'il va demander.
Honnêtement, j'ai pas plus. 8 x 7, 8 x 8. Il va être à 60. Il va être à 60 millions. Puis honnêtement, au prix qu'ils l'ont eu dans les dernières années, tu y dois quasiment.
C'est vrai. Les deux autres, Tatar et Petrie.
Bien calme ce que tu veux, Alex. Honnêtement, ça serait le plus grand désaveu. Je contrôle pas l'opinion du joueur. Je parle de la part de l'entreprise. Ce serait de. Le gars qui incarne ce que tu veux, sa glace depuis.
Oui, je suis d'accord, mais tu sais, il y en a eu. L'histoire montre quand même, l'histoire récente, dans les 5-6 dernières années, les joueurs qui peuvent se prévaloir de l'autonomie le font dans une très grande proportion.
Tavares, là, il adorait New York, puis il disait, puis il était bien, puis il avait joué là, puis tout à coup, il n'a pas signé son contrat, puis il a dit, je vais attendre, puis finalement, quand sont arrivées les offres, il a écouté celle des Islanders, mais il a choisi une autre équipe, et il est retourné dans sa ville d'origine.
Il y en a eu plein, là, des bons joueurs, là, comme qui ont
joué. Mais le danger avec Gallagher, par exemple, c'est que c'est la réaction des fans. Que là, le Canadien, Bergevin, il a échangé le joueur le plus populaire des dernières années du Canadien à Nashville en retour de Shea Weber. S'il fallait qu'il change celui qui est sans doute le plus populaire aujourd'hui, tout à coup, ça marche plus.
Mais la question, en fait, c'est si En fait, il y a vraiment c'est un cas très difficile, Brendan Gallagher, parce que est-ce que tu cours le risque de le perdre pour rien dans du monde alors qu'il vaut très cher? Sérieusement, ouais. Brendan Gallagher, c'est un top espoir puis un shot de première ronde facile.
Mais comme DG, tu règles ça vite en ce sens que tu as une réponse rapidement. Ouais. Si le gars te signifie que non, je vais tester le marché, ben là, c'est sûr que t'es agi.
Donc, ça en est un. Les deux autres,
c'est qui tes deux autres noms?
Tatar et Petrie. Tatar, honnêtement, je suis convaincu qu'il va partir rapidement. Il a 0.84 points par match cette année. De loin, sa plus grosse saison et je pense qu'il peut vraiment générer un très bon retour. Écoutez, il a donné un shot de première, deuxième et troisième qui a été échangé de Détroit vers Vegas. Je pense qu'il y a une bonne valeur. Là, c'est Jeff Petrie.
Mais tu l'échanges au trade deadline cette année?
Tatar, oui. Petrie, ça serait plus difficile parce qu'en fait, le Canadien n'a personne pour le remplacer à droite. Donc, on donnerait des minutes de jeu gratuites.
Puis Tatar, à gauche, qui va le remplacer?
Ben, à gauche, quand même, le Canadien pourrait monter un Jordan Wheel, par exemple, un petit peu plus haut dans l'alignement.
À gauche, un droitier?
Ouais, non, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de à gauche, je suis d'accord, mais ça va prendre quelqu'un à monter. Mais c'est pas facile. Drouin va revenir au jeu éventuellement.
Mais tu sais, on peut pas dire, tu sais, je regarde, c'est ton meilleur pointeur. En tout cas, il y a pas d'urgence. Ouais. Tu peux l'échanger l'an prochain, Tatar. Puis regardez, ouais. Moi, honnêtement, je pense que ce qui aurait peut-être de l'allure, et je pense que c'est vers là qu'ils vont aller. Je m'attends pas à des méga changements. Je pense qu'à un moment donné, d'ici le repêchage, je pense que leur seul objectif, c'est de se rendre au repêchage, puis de repartir sur une nouvelle page. Ils vont-tu faire une transaction, genre, pour avoir deux choix de première ronde? Ils vont-tu faire une... Tu sais, ils vont essayer de faire de quoi? Puis je pense qu'ils vont être obligés d'inclure un joueur dans une transaction comme celle-là, en retour d'un inversement des choix. Mais il va falloir qu'ils fassent un coup d'éclat. Je ne crois pas que ça va être Lafrenière, à moins qu'ils gagnent à la loterie. Il n'y a personne qui va céder ses droits sur Lafrenière. On peut s'amuser à en parler.
Je disais comme ça, les gars, on a commencé à avoir une tendance l'année dernière, je crois, où on a vu des équipes qui n'étaient plus dans la course, mais qui se servent de la date limite des transactions pour faire des acquisitions, non pas pour cette année, années suivantes. Oui, oui. C'est-à-dire que t'es une équipe qui, normalement, en temps normal, t'es vendeur parce que tu t'en vas dans une saison où tu feras pas les séries, mais parce que t'es dans un marché où tu peux pas signer des joueurs autonomes parce qu'ils ne veulent pas venir, ben tu te sers de la date limite des transactions pour peut-être échanger quelques choix au repêchage et mettre la main sur un joueur qui va pouvoir t'aider à l'avenir, parce que le Canadien a un besoin criant à ce niveau-là. On a de l'argent à dépenser, puis on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'est pas capable d'attirer des joueurs autonomes. Donc,
Bruno Gervais était avec nous, amateurs de sport, hier, et c'est vrai qu'on a vu ça souvent dans la Ligue, mais voici ce qu'il disait sur la rapidité à laquelle on peut changer les choses.
Toutes les équipes peuvent se permettre de penser ou rêver aux séries. T'sais, il y a deux ans, quand le Canadien a commencé la saison, je pense qu'il n'y a pas personne qui les mettait dans les séries. Puis t'étais à une victoire, un point ici et là dans la saison. Tu sais, des fers. Fait qu'il y a tellement de parité dans la Ligue que ce reset-là ou de recommencer, c'est pas 6 ans de temps.
Non,
t'sais,
non, ça, je suis d'accord.
Tu peux pas faire une vente de feu. Tout le monde, allez-vous-en, on recommence à zéro. C'est que t'étais à 2-3 morceaux prêts. Oui, t'as le droit à l'espoir. T'as le droit à penser que tu as une bonne saison. Puis les Canadiens étaient partis en feu avant les blessures à Drouin puis Byron. Puis t'avais le droit de penser aux séries.
Voilà donc pour les propos de Bruno Gervais. Pensez-vous que ça peut revirer de bord assez vite? Honnêtement, c'est sûr que là, c'est difficile d'émettre, d'exprimer un certain optimisme. Mais on dit que t'es jamais aussi bon que tu l'es quand ça va bien. T'es jamais aussi mauvais que qu'on dirait que tu l'es quand ça va mal.
Ben, la stratégie, en fait, dont parle Bruno, c'est celle qui emploie à peu près une vingtaine d'équipes dans la Ligue, dont le Canadien, en fait, jusqu'à maintenant. Là. Donc, qui est, tu tankes pas. Tu te maintiens, puis t'espères une fois que tu rentres dans les séries, tu fonctionnes, t'ajoutes 2-3 joueurs par année. C'est exactement ce que fait le Canadien depuis 20 ans. L'autre stratégie, en fait, qui est
pas celle... depuis 2 ans, là, parce que là, il gèle ses choix de repêchage.
Oui, c'est non, mais ce que je veux dire, il ajoute un petit peu, il échange pas, tu sais, il tank pas, là, le Canadien.
Mais ce qu'il va chercher, ça coûte rien. Des wheels de semonge, c'est ça.
Mais tu sais, le Canadien tank pas. Il y a quand même une dizaine d'équipes, là, entre 8 puis 10 dans les dernières années qui ont essayé de tanker. Et ce qu'on se rend compte, c'est ce que je racontais un petit peu tantôt, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand tu prends ce chemin-là de la reconstruction totale, là, on est dans des durées de entre 5, 7 et 10 ans. On regarde les Sabres, les Oilers, on regarde les Red Wings, comment ils sont partis. Ils ne seront pas sortis de là, même si on l'a freiné avant plusieurs années, parce que ça te prend au moins 10 bons joueurs dans une équipe de hockey. Les Red Wings sont loin là, d'avoir 10 bons joueurs.
Mais pire, est-ce que si j'ajoute à ce que tu dis là, le pire, là, c'est que les 4 années sur 5 où tu auras manqué les séries,
oui,
t'auront peut-être pas servi à grand-chose, parce que tu n'as pas mis la main sur des exceptionnels. Quand Kanyemi nous montre pas qu'il va être un exceptionnel. Je dis pas qu'il sera pas bon, qu'il aura pas une carrière, mais
ben tu sais, je parlais à Bruno aussi hier qui me disait lui il a joué pour les Islanders longtemps, puis en fait son problème, il dit on est en reconstruction tout le temps. tout le temps. Ça n'arrêtait jamais la reconstruction.
Ben ouais.
À toutes les années, on ajoutait 6 vétérans pour jouer avec les jeunes, puis on s'en est jamais sorti. On n'est jamais devenu à bout de notre tanking.
Mais tu sais, il y a une autre chose aussi, quand les jeunes ils disent, bon, liquidons l'équipe, c'est pas aussi simple au hockey que dans d'autres sports, parce que t'as un plancher salarial, donc tu peux pas dire, bon, Price, on s'en débarrasse, Weber, on s'en débarrasse, Tatar, on s'en débarrasse. Tu peux pas. T'es obligé de respecter au moins le plancher. Donc, tu peux pas liquider tout le monde et recommencer à zéro comme ça a été fait, par exemple, au baseball dans certaines équipes. Dans les dernières années, là, il y a eu les Blue Jays ont fait ça, les Astros ont fait ça, mais au hockey, t'as pas le choix. Ça fait partie des règlements de la convention.
Mais en fait, c'est ce qui trompe toute l'équation, c'est que le baseball est toujours en avance sur les autres sports pour les statistiques ou les stratégies. Ça a fonctionné au baseball avec les Astros, entre autres. Et là, tout le monde dit, on devrait faire ça au hockey. Mais ça marche pas. Les Astros sont passés de 60 à 20 millions à 140 millions de masse salariale. C'est impossible de faire ça au hockey.
Les gars, si on examine l'équipe du Canadien actuellement, puis Marc Bergevin, sans doute un tableau pour chacune des années. Si on examine tout ce qui parle, c'est sûr que ça prend au moins une colonne de 10 bons joueurs. Ça t'en prend pas de mauvais parce que t'es aussi fort que ton maillot le plus faible dans la Ligue nationale de hockey. Puis une mauvaise présence à la glace dans le match le plus important de ton année peut te coûter une élimination, peut te coûter une défaite ou 2 points dont t'as besoin. Quand on regarde ça, tu parlais de Gallagher tout à l'heure. Gallagher a 27 ans, OK? Oui. Là, j'ai pas sa date de naissance.
Oui, il a 27.
Il a 27 ans. Fait que lui, si tu le signes, il va arriver à 28. Il reste, puis son contrat finit juste en 21. Fait qu'il va arriver à pas loin de 29 ans quand va être c'est le temps de signer. 29 plus 8, il arrive à 36, OK? Weber, Domi a 20. C'est parce que j'essaie de regarder le noyau qui va être là d'une couple d'années encore. Nate Thompson,
ben, si tu regardes dans 5 ans, tu vas avoir Lekkonen, tu vas avoir Drouin, tu vas avoir Domi.
Lekkonen à 24.
Ouais.
Domi, on verra, mais un gars où tu vas l'échanger ou non. Ouais. Mais mettons, là, il fait partie de ça. Ouais.
Donc, Drouin, Domi, Lekkonen, Armia va probablement encore être là. On peut ajouter Dano, Gallagher, ça
Dano,
fait 5.
Dano,
ça fait 6.
Suzuki.
Oui, Suzuki, c'est le 7.
Drouin, on l'a nommé. Kotkaniemi, il devrait faire partie de ça, mais je sais pas quelle place, quelle chaise il va occuper.
S'il n'est pas là, c'est un méchant problème. Oui, là, parce
même
que
chose pour
on parle, ne l'oublions pas, du troisième choix au repêchage. Il faut pas que tu manques ton coup avec le troisième choix au repêchage. Tu n'as presque pas le droit de faire ça. Là.
Tu veux dire surtout comme avec Galchenyuk, mettons. Là,
ben, qui non, joue mais sur une disons que Galchenyuk, l'année a été moins bonne. Mais l'année de Kotkaniemi, le numéro 4, là,
il était pas mal meilleur.
Il est pas mal bon. Puis le Zidin qui vient après,
ouais,
il a l'air pas mal
Quinn
bon aussi.
Il est bon aussi,
moi, je suis loin d'être convaincu qu'ils ont choisi
la défense,
le meilleur joueur.
Si
on va le voir.
Mais tu sais, un joueur assuré dans 5 ans à la défense, présentement, sûr qu'il va être là, j'en vois pas. Là.
Dans
pas,
ceux qui sont
Mété, peut-être. Là,
regarde, Chiara a un contrat de 3 ans, c'est sa première année, il va avoir 31 ans avec son contrat finis. Mété a 21 ans, Fleury a 21 ans. OK, à moins que d'une dérape, eux autres devraient être encore là. Puis pour le reste, écoute, c'est bon.
Ouais, mais est-ce que ça va être des joueurs
Kulak,
de premier
plan? Ils sont prêts à déloger dès l'an prochain avec l'arrivée de Romanov. Fait que tu sais, tu peux pas parler de devenir avec Kulak. Chiara va être là le temps de son contrat minimum. Scandella est de passage, c'est un UFA, on verra. Petrie. Moi, on va te dire une affaire, là, avant de songer à éliminer Petrie du portrait, là, repense-y comme faut.
Ça dépend,
ou va chercher un équivalent ou quelque part.
Mais ça dépend,
jeune
c'est quoi ton
là.
Horizon? Si tu penses que l'équipe va être compétitive. Tu sais, Jeff Molson a dit entre 3 et 8 ans. Ça, c'est ce qu'il a dit au début de l'année. On va avoir une bonne équipe dans 3 à 8 ans. Si c'est dans 3 ans que tu penses que tu évalues que ton équipe va être la meilleure, oui, tu gardes Jeff Petrie. Si c'est dans 5 ans, Jeff Petrie a 37 ans. Savez-vous combien il y a de défenseurs dans la Ligue nationale présentement de plus de 36 ans dans la Ligue? Il y en a 8. Puis là-dessus, il y en a juste 3 qui jouent 20 minutes par match. Tu sais, les chances qu'il soit un joueur dominant dans 5 ans, Jeff Petrie, sont à peu près nulles.
Mais tu sais, cette déclaration-là, 3 à 8 ans, là, franchement, en tout respect, là, 3 à 8 ans. À 8
ça
ans.
Ça n'a pas d'allure.
Ben oui, à 8 ans, ça veut dire qu'on attend le repêchage dans 8 ans là, pour aller chercher.
Moi, ce que j'ai surtout retenu.
Tu ne peux même pas savoir de quoi tu vas avoir là ton équipe.
Non, mais en fait, la vraie chose là-dedans, c'est. La vraie chose, c'est que de 1 à 3 ans là-dedans, ça ira pas bien. C'est un petit peu le message qui n'a peut-être pas été compris à sa juste valeur au moment où
c'est. Est-ce qu'ils sont obligés de prendre la parole là, bientôt? Qui va être le prochain à parler? Parce que Claude Julien est à court de mots, on l'a vu.
Ouais, puis, Pierre, là, c'était triste un peu. Là. Honnêtement, là, c'était triste de le voir. Parce que tu sais, c'est un bon gars, Claude Julien. Il n'y a pas de raison dans la vie de ne pas aimer Claude Julien. Puis de le voir là, il était démuni, il ne savait plus quoi dire. Moi, ça m'a ébranlé. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu un entraîneur comme ça. Terrien, c'était différent. Terrien, quand ça allait mal, lui, il était en colère. Puis il répondait en un mot. Puis, tu sais, il essayait même plus d'être d'être fin avec les journalistes, entre guillemets. Mm-hmm. Mais tu sens que Claude Julien, il arrive là, puis quand il dit faut se conduire en professionnel, tu sais, sur la glace, puis nous autres comme commentateurs, ben lui, c'est la première chose qu'il fait dans ses rencontres de presse après des revers aussi difficiles. Il se conduit en professionnel. Il répond aux questions. Il essaie de donner un peu d'explication, même s'il n'y en a plus. Tu sais, moi, j'admire ça, puis je trouve que pour lui, c'est tellement difficile.
Pour moi, un comparatif, c'est la politique. C'est-à-dire, s'il y a une crise majeure en politique, par exemple à Ottawa, t'envoies le ministre, tu sais, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. À un moment donné, il n'y aura plus rien à dire. Puis, tu sais, il y a beaucoup de chaleur sur lui. Puis, le premier ministre, il laisse son ministre aller de l'avant parce qu'il veut pas prendre de chaleur. Tu sais, à un moment donné, il faut que le premier ministre prenne de la chaleur. Puis, dans ce cas-ci, le premier ministre, c'est pas nécessairement Marc Bergevin. Non. Ça pourrait devoir être Jeff Molson.
C'est certain qu'à l'occasion, il y a des questions qui m'ont été posées. Puis, la réponse, je la sais, mais je peux pas la donner. C'est la partie la plus plate. Parce que en québécois, faut que tu patines alentour. T'aimerais tellement dire les vraies choses pour que le public comprenne, mais que tu peux pas pour plusieurs raisons. Peut-être pour protéger le joueur, l'organisation.
Par rapport à la politique de communication, parce que je disais ça d'entrée de jeu, dans le fond, tu nous diras rien, puis il nous l'admettait que oui, c'est vrai, c'est plate, tu nous diras rien, mais il y a quelqu'un qui va devoir dire quelque chose. Ouais. Mais là,
de toute façon, tu finis par le dire en fin d'année, là, l'année où ça allait super mal, ils ont rien dit de l'année, puis à la fin, ils ont dit c'était l'attitude. Non,
Et c'est là qu'il y a quelque chose qui change dans la séquence actuelle, dans la deuxième séquence actuelle, Jérémy, c'est que là, ça devient tellement une crise, c'est que tu peux pas faire semblant que t'es encore sur le plan de début d'année.
Oui, puis si tu fais une déclaration, par exemple, puis tu sors public, tu te dis, garde, on fait une croix sur cette année. Par exemple, on va faire jouer les jeunes et tout cela. Là, ça nous donne du matériel nouveau. On sait où ce qu'on s'en va. Et là, on observe les jeunes et on peut poser des questions et à Claude Julien et aux joueurs concernant leur évolution, comment on les voit avancer, qu'est-ce qu'on a pensé de leur jeu ce soir. Mais là, présentement, on est encore dans un mode où on pose des questions sur la crise, le fait que ça va pas bien, le fait qu'on va rater encore les séries éliminatoires. Donc, t'es obligé de faire une sortie.
D'ajuster ton discours.
Ouais. Exact. Ton discours pour que les médias aussi commencent à poser des questions qui ont rapport avec cela. Et ça fait en sorte qu'on va changer un petit peu notre...
On est dans un cul-de-sac, là. Ou bien tu sors communiquer, puis ça change pas grand-chose à la réalité, mais tu sais, au moins c'est un exercice, tu sais. Ou bien quoi, tu fais un show de boucan, tu congédies un entraîneur, ou tu fais un grand ménage, tu sais. Je sais pas, Mario, si Jeff Molson dit à Marc Bergevin, fais quelque chose, ou si un actionnaire de Jeff Molson dit à Jeff Molson, fais quelque chose. Mais c'est sûr qu'il y a pas personne qui regarde ça sans rien dire, j'ose croire.
Le grand ménage, là, on en a eu quelques-uns, là, au cours des 20 dernières années chez le Canadien de Montréal, quand les choses n'allaient pas bien, ce n'est plus aussi simple que c'était à une certaine époque. Aujourd'hui, là, si tu décides que tu mets le GM dehors, le coach dehors, puis tout ça, t'es mieux en tabarouette d'avoir des candidats de premier ordre devant toi. Surtout au poste de directeur général, ce qu'on a vécu avec le Canadien lorsque Réjean Houle est arrivé en place, aujourd'hui, ce serait 10 fois pire, parce que la convention collective est tellement complexe, les équipes sont tellement bien entourées autour du directeur général que si tu mets un gars là qui est incompétent ou qui a pas d'expérience ou qui est pas prêt, tu vas te faire manger tout rond.
Auriez-vous une raison de, si vous songiez à congédier Marc Bergevin, est-ce qu'il y a plusieurs bonnes raisons de le faire en ce moment?
Moi, il y en a une.
En ce moment?
Ouais.
Moi, la raison, c'est l'entêtement que Marc a eu avec certains joueurs, si on recule, il y a 3 ou 4 ans, où il y avait une opportunité pour lui réelle, selon moi,
Mais tu congédierais pour de quoi qui est survenu il y a 4 ans?
Oui.
C'est ton argument, parce que...
Parce que moi, je veux te donner le temps de me convaincre que ces décisions-là que t'as prises à l'époque étaient les bonnes. Mais au
c'est
bout
parce
de 4 ans...
C'est parce que là, le plan sur lequel il a recommencé, ça fait un an ou deux, fait que je pense pas qu'il est menacé pour quelque chose qui est survenu il y a 4 ans. Je comprends que tu y en veux encore pour quelque chose qu'il a pas fait il y a 4 ans.
Mais faut que tu lui donnes le temps. Il y a eu pas mal de temps, là.
4 absences des séries éliminatoires en 5 ans, là, ça commence à faire beaucoup. Mais tu sais, il y a une autre chose aussi que le Canadien ne peut pas écarter dans sa réflexion. Puis tu peux pas simplement regarder le travail de Marc Bergevin, est-ce qu'il a fait des bons échanges, est-ce qu'il a choisi les bons joueurs, est-ce que ça va plus loin que ça. C'est l'image du Canadien. Est-ce que aujourd'hui, Marc Bergevin, auprès des partisans, les partisans, ce sont eux qui font vivre l'équipe, pas seulement ceux qui vont au Centre Bell, comme souvent des gens croient, mais tous ceux qui achètent des abonnements au câble pour regarder, là, ça contribue à financer le Canadien aussi. T'sais. Alors, est-ce qu'auprès de ces millions d'amateurs au Québec, est-ce que Marc Bergevin peut encore aujourd'hui incarner l'espoir? Ça, là, c'est une question fondamentale que Jeff Molson doit se poser.
Tu sais quoi? Il l'incarnerait si Kotkaniemi jouait comme un gars qui méritait d'être repêché troisième. Là, non, mais sa crédibilité, elle repose sur quoi?
Elle repose sur
la qualité des gars qui amènent. Parce que on les connaît, ceux qui sont là déjà, là. Tu sais, fait que là, sa crédibilité est affectée parce que c'est une année qui incarne pas l'espoir. Weber peut bien avoir la meilleure année au monde. C'est pas Weber qui incarne l'espoir d'un futur meilleur en ce moment. C'est Kotkaniemi, c'est Suzuki cette année qui incarne l'espoir.
Ouais, puis incarne l'espoir de manière correcte, mais un peu modeste quand même.
J'essaie juste de mentionner qu'il incarne pas le désespoir.
Non.
Mais Kotkaniemi, il va incarner très vite le cynisme là.
Ouais.
Je veux dire, s'il se met pas à jouer du hockey, puis l'an 3 de son séjour dans la LNH va être déterminant. Mais les deux premières années à date, c'est pas loin d'un gros zéro là par rapport aux attentes. Je veux dire.
Ouais. Moi, je pense pas que Bergevin va être congédié sur le court terme. Il y a deux ans, quand le Canadien a connu son anus horribilis, je sais que Jeff Molson s'est posé des questions à propos de Marc Bergevin, mais après la saison. Il s'est pas posé de questions pendant la saison. Il y a quand même la date limite des échanges qui s'en vient. Je l'ai dit tantôt, c'est un bon évaluateur du talent professionnel, Marc Bergevin, du talent des autres équipes. Il a fait des bons échanges depuis 3 ans. Je pense qu'ils vont le garder. Mais à la fin de la saison, c'est sûr qu'ils vont faire une évaluation de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Je veux dire, les Canadiens n'ont pas fait les séries depuis que Marc Bergevin a vendu son nouveau plan.
Oui, mais il va falloir qu'elle fasse vite là, son évaluation. Ouais. Là, ça ne pourra pas être un mois après. Mais tu sais, justement, après cette année-là à laquelle, Alex, tu fais allusion, moi, je me souviens, j'ai fait une entrevue avec Jeff Molson dans son bureau le lendemain du point de presse conjoint là, où on avait parlé de l'attitude. Puis tout à coup, Jeff Molson s'en était mêlé en disant « Ceux qui n'ont pas la bonne attitude, t'sais, ils vont partir. » Puis ça, t'sais, il était très... Puis je lui avais demandé, j'avais dit pendant des années, Jeff, vous avez dit que Marc Bergevin était un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue nationale. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes encore prêt à dire ça aujourd'hui? Puis il avait dit, écoute, aujourd'hui, je peux pas dire ça. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Alors, tu sais, quand tu parles des doutes, là, il avait confirmé ces doutes-là. Par la suite, il a racheté son nouveau plan. Sauf que là, le nouveau plan, là...
Il fonctionne pas.
Non, l'idée, là, du nouveau plan, là, c'était peut-être pas une participation aux séries comme test ultime. Mais c'était certainement pas d'être à toute fin pratique éliminé le 10 janvier.
Non. Et c'est ça, là que y a une marge, c'est là que ça pète la sonde météo ou la ballonne. Et l'état d'esprit dans lequel, c'est toujours intriguant de savoir dans quel état d'esprit ils regardent ça eux autres. Jeff Molson, c'était avec toi, j'en parlais cette semaine, pendant le voyage des fêtes, tweet, un rare tweet sur son équipe, dit, non, mais c'est moi ou cette équipe-là du caractère. T'sais, disons que c'est pas un tweet qui a bien vieilli,
non.
Là.
Non. Hein? D'ailleurs, il parle plus de ce temps-là.
Et ça suivait une séquence de 8 défaites. Fait que t'as beau vouloir regarder le verre à moitié plein. Puis, dans quel état d'esprit étions-nous ou est-ce qu'ils étaient quand ils ont accepté la campagne soumise par McDonald's aussi?
Ouais.
On va vendre des burgers.
Tu sais, non, mais c'était correct, c'était cute sur le début, mais tu sais, pour vrai, là,
je pense qu'il y a eu un effort à ce moment-là pour faire, mais ça, c'est mon interprétation, je peux me tromper, là, mais qu'il y a eu un effort pour essayer de repositionner Marc Bergevin dans la sphère publique. Bergevin qui avait été moins populaire dans les dernières années. Là, on s'est dit, hey, l'année est pas trop mal partie, il y a de l'espoir, Suzuki, bon, Kotkaniemi, ça va peut-être se replacer, l'arrivée de Péling, il y a Romanov qui s'en vient. Et là, ils ont dû dire, on peut le repositionner. Sauf que, le commercial, là, je suis pas un expert de marketing, mais je pense pas qu'elle envoyait le bon message non plus. Tu sais, c'était un Marc Bergevin dans la pub au-dessus de ses affaires. Tu sais, très au-dessus de ses affaires. Puis, tu sais, dans une situation aussi délicate pour une équipe, là, je trouvais que c'était un petit peu osé.
Ouais. Mais c'est vrai que l'organisation envoie des drôles de messages. Je reviens au tweet dont tu parles à propos de Jeff Molson. Il l'a fait après une victoire du Canadien. C'était pas pendant le match, c'était après. Il répondait à Richard Labbé de la presse qui avait posé une question absolument légitime qui était, est-ce que c'est moi ou le Canadien donne beaucoup de buts en fin de période? Puis, c'était comme une bravade envers Richard. C'est facile à faire quand ton équipe gagne, mais tu sais, ça serait le de l'entendre en situation de crise aussi. Puis, tu sais, on reconnaît les bons gestionnaires dans des temps de crise, là, pas nécessairement juste dans des temps de croissance. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils sortent aujourd'hui, qu'ils donnent un break au minimum à Claude
Molson?
Julien. Ben, écoute.
Ou Bergevin.
Non, attends, Claude Julien est tous les jours devant les médias. Bergevin
sort,
a parlé. Bergevin a parlé il y a 2 semaines, même pas à Vancouver. Ça serait quand même deux séquences rapides. Molson, il a parlé pendant la première séquence de 8 défaites à Laval, quelques minutes. Ouais. Mais à un moment donné, ce serait peut-être à lui de prendre un petit peu de chaleur
pour
ce qui se passe.
Est-ce qu'il serait pas le temps que Jeff Molson fasse un vrai point de presse.
Ben oui, mais
un
c'est
vrai.
Ça. Il est t'sais, président des vrai, opérations là, hockey.
Un vrai, là. Pas où tu réponds n'importe quoi, du vent, puis tu donnes pas... Un vrai, là. Tu sais, genre, M. Molson, par exemple, vous sentez-vous coupable, je sais pas moi, de charger des prix de fou de même avec un club, ça agace.
Mais Jérémy, c'est bon ce que tu dis
là. La Ligue américaine.
Non, mais c'est pas... Eux autres, là, ils vont pas se livrer à une séance d'éviscération. Ils vont pas aller se faire humilier en public. Fait que,
Non, mais
quand ils vont faire un exercice de relations publiques, ils vont le faire pas pour aller se faire humilier.
Ouais, j'ai l'impression qu'il va peut-être faire comme il y a deux ans, là, dans la fameuse année horribiliste, comme tu dis. Souvenez-vous, il y avait eu la visite d'un couple royal européen, je pense que c'était
la Belgique.
Puis il était venu.
Moi, je te parlais d'une sortie à Nadine.
Ben, c'est ça. Évidemment, plusieurs journalistes étaient là. Puis là, les questions étaient venues sur le rendement de l'équipe. Et c'était la première fois qu'il avait dit, souvenez-vous, notre rendement est inacceptable. C'est la première fois qu'il le disait. Et mais au moins, ça avait donné un ton. Puis tu sais, tantôt, tu disais qu'il faut qu'il parle tout à coup pour essayer de changer un peu la conversation. Ben, puis je pense que si le Canadien, tu sais, donnait un peu leur juste sur comment le président se sent, je pense que ça contribuerait à alléger
ce que je veux dire, les gars, là, c'est qu'à chaque fois qu'il sort, c'est toujours parce que il y a une patinoire qui est inaugurée en quelque part, où il fait une visite dans une école, où il y a la famille royale qui s'en vient, puis c'est bien beau, puis c'est correct, là, mais un vrai point de presse où on parle
Quand le hockey va bien. Quand le hockey va bien, il n'est pas supposé d'avoir commenté le hockey. Le gars qui vient d'acheter les alouettes, là, il a dit que, puis je pense que tout le monde est bien content d'entendre ça, moi, je vais laisser gérer le club. Ça devrait être techniquement la même affaire, mais c'est pas t'as pas tort dans le sens, c'est pas la même affaire parce qu'il est impliqué au quotidien avec son GM.
Il est président de l'équipe, là.
Ben c'est ça,
il est pas juste propriétaire, il est président de l'équipe.
Ouais. Tu sais, est-ce qu'on peut poser des véritables questions et avoir un semblant de véritables réponses? Est-ce qu'il peut parler directement aux partisans et dire, écoutez, les partisans, là, je comprends à quel point vous trouvez ça tough. Parce que nous aussi, on trouve ça tough. Alain, on s'en excuse. C'est pas normal. J'ai peut-être fait des erreurs. Fais une sortie. Explique-nous, business-wise, comment ça va. Est-ce que vous faites de l'argent quand même? Est-ce que vous en faites autant? Est-ce que vous en faites plus? Est-ce que vous en faites moins? Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Est-ce que vous êtes pas satisfait de ça?
Ils ont fait 80 millions l'an passé. Jérémy, je pense pas qu'ils vont en faire bien moins cette année.
Fait qu'au bout de la ligne...
Puis l'autre affaire, c'est-tu quoi? C'est que le monde qui va au match, bien souvent, ils ont aucune idée du classement. Offre des billets à tes neveux ou ta nièce, là. Puis tu penses qu'ils vont dire, non, je veux
Mario,
pas y aller, Jérémy.
Sors pis dis-nous-les. Moi, j'ai fait 80 millions l'année passée, fait qu'il n'a pas de problème. Et si vous voulez savoir pourquoi je conduis pas personne, c'est pour ça. Le bottom line, il est là. Le cash rentre. That's it. Au moins, on va savoir à quoi s'en tenir.
Non, mais je pense pas que c'est juste ça. C'est juste de, on l'a dit tantôt, le veut-veut pas, on retombe un peu dans une certaine, dans une redondance parce que la situation est redondante, la situation qu'il vit. Ça nous oblige, nous aussi, à répéter les mêmes affaires, mais l'espoir est loin d'être au maximum en ce moment. Puis ce que je crains le plus, c'est que ça soit peut-être un début d'une passe difficile. En même temps, ils vont se mettre une pression. Nommez un nouveau DG, là, vous allez demander de faire quoi demain matin? Puis encore là, c'est qui les DG disponibles? Est-ce qu'ils profitent du fait qu'il n'y a pas de potentiel remplaçant pour garder son emploi? Mais même, appelle-les bon Dieu, Marfalay, là. Il va faire quoi le bon Dieu demain? Mettons, il devient DG.
Ben moi, je pense que demain, ça serait une erreur s'il y arrivait demain parce que là, on arrive vers la date limite des transactions. C'est un moment où il faut quand même que tu connaisses très, 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 très bien ton talent à l'interne. Là. Faut peut-être ton évaluation, ça soit optimale. C'est pas un bon moment pour la faire. Après ça, il y a le repêchage. Là, tu peux t'en remettre à l'équipe qui est là en place présentement. Est-ce que l'équipe qui est là en place présentement fait partie du problème? Je pense qu'on a tous notre opinion là-dessus, mais peut-être que oui aussi. Là. C'est pas un timing incroyable.
Moi, je me répète, là, je saliverais à l'idée d'avoir Jeff Molson là, assis, prêt à répondre pour vrai, dans le fin fond de son cœur, comment il se sent, est-ce qu'il y a eu des regrets par rapport aux 5 dernières années, des choses qui ont été faites, qui auraient fait différemment, tu sais, vraiment sortir puis nous donner vraiment le pouls, parce qu'à chaque fois qu'on le rencontre, il est bien fin, puis il est bien correct, puis... Mais il y a pas de substance qui sort de là ou à peu près là. T'sais, on n'apprend rien de nouveau, de véritablement comment il se sent par rapport à la situation difficile qu'elle traverse son équipe depuis 5 ans.
Le pire dans tout ça là, c'est et je sais pas si c'est inquiétant ou je dois m'en inquiéter, mais je suis pas fâché, je suis pas indigné, je suis pas en colère. Et je pense que je suis détaché. Et ça, je trouve ça dangereux, mais j'aime le hockey encore. Puis je regarde pour mon amour du hockey, mais t'allais dire...
Ben, c'est extrêmement dangereux. Mario, il y a des études qui ont été faites sur la défanatisation au Québec. Là, okay? Donc ça, c'est le moment à partir desquels les fans cessent de suivre un club. Ça a été fait avec les Saguenay-Chicoutimi dans les pires années des
Saguenay. Il y a beaucoup
de
monde qui me disent qu'ils ne regardent plus. Là.
Exactement. Et c'est très, très, très difficile de ramener le monde au bacail. C'est un gros danger. Tant que t'as encore
ils
un...
Ils reviennent vite quand tu gagnes. Puis
non, même pas. Quand le processus est enclenché, ça prend beaucoup d'efforts pour ramener les gens à l'interne.
Mais présentement, le building est en complet, on va se le dire. Là, j'étais là pour
le dernier
match.
Il y a des loges vides, il y a des billets donnés, c'est
sûr.
Oui,
mais en général, c'est pas mal plein.
C'est quand même bien.
Mais la réflexion que tu as, Mario, j'étais avec Jérémy Rainville sur la galerie de presse mardi soir ou lundi soir après le match des Oilers, ou c'était jeudi soir, pardon. Et on discutait, puis là, on s'est dit, il n'y a personne qui eut, les gens quittent. Puis...
Oui, mais l'indifférence, c'est dangereux pour une équipe de sport.
Non, il
c'est
se passe de
dangereux.
Quoi de dangereux. Puis moi, je pense que Philippe nous a quittés momentanément parce qu'il devait être en onde avec Patrick Lagacé. Si vous ne l'entendez pas en ce moment, c'est la raison pour laquelle on se promène d'un studio à l'autre parfois. Mais ouais, il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Et ce qui est le pire, c'est que je peux pas t'annoncer la date où ça va se replacer à moins d'un coup d'éclat. Puis je veux dire, si tu veux travailler dans une meilleure ambiance, il y a quelqu'un qui va devoir être sacrifié à un moment donné. Oui. Et si c'est pas parmi les dirigeants, ben là, il va falloir que tu crées du mouvement du côté du personnel des joueurs. Il va falloir que tu accélères ton processus. L'an passé, il a tenté l'offre hostile. Là, je pense qu'il va être obligé de tenter un échange où il va tenter d'aller chercher un joueur puis qui va le donner. Tu sais, je dis ça tout haut puis je pense à mesure. À haut, t'as pas été capable d'aller chercher qu'un joueur hostile. Y a-tu un gars que t'es capable d'aller chercher via transaction, un gars de 21 à 24 ans?
Je pense que oui.
Peut-être. Alors,
oui,
c'est ça.
Il va devoir faire ça.
Il va devoir faire ça.
Chercher des choix repêchés. Tu sais, des choix, là, le Canadien, il y en a 12 dans le prochain. Ils vont en avoir eu 40 dans les 4 derniers repêchages.
Prochain repêchage à Montréal, va m'en chercher deux en première
ronde. Mais aussi, ils peuvent aller chercher des jeunes espoirs. Tu sais, des joueurs qui ont entre 20 et 22 ans puis qui savent qu'ils auront jamais
ça va prendre du mouvement, là, parce que...
Moi, j'irais plus prendre... Présentement, j'irais plus prendre des joueurs que tu sais qui vont jouer dans la Ligue nationale que d'aller prendre une succession de choix de deuxième, de troisième, de quatrième ronde. Il y en a, là, le Canadien, des choix de deuxième ronde.
Les gars, vous le savez, la quantité de gars qui n'ont pas abouti chez le Canadien?
C'est fou. Hein?
Imagine si on aurait assassiné quelqu'un qui nous... Mettons que quelqu'un serait arrivé et dirait, je vais changer mes 10 prochains choix de première ronde en retour de X, OK? Mais dans le fond, ça a donné toute la chenoute, fait que...
McCarron est parti cette semaine, là, puis...
Non, mais Sherbach, mais tu sais, ce qui est bien intéressant, c'est le parallèle avec les Rangers, parce que les Rangers aussi, ils ont super mal repêché, là, en 2013 puis 2017.
Puis ils manquaient de choix aussi.
Oui, mais la grande différence entre les Rangers et les Canadiens, c'est que les Rangers, quand il y a un trou dans leur alignement, ils embauchent Panarin, les joueurs veulent aller à New York. C'est toute une différence. Là, dans la construction, parce qu'on compare
beaucoup. Au Canada,
beaucoup,
toutes les équipes canadiennes.
Mais on compare beaucoup présentement le Canadien aux Rangers. Hein, on devrait faire la même chose. On devrait faire une lettre puis dire qu'on tank.
C'est boiteux
les Rangers,
comme comparaison.
Ben oui, parce que les Rangers,
ça.
Ils vont s'en sortir en signant les joueurs autonomes.
Exact. Mais c'est pour ça que je dis que la date limite des transactions qui s'en vient, là, il faut bien la travailler. Puis s'il y a moyen de mettre la main sur un joueur intéressant, pas pour finir cette année,
non,
mais pour s'assurer quelque chose d'intéressant sur le long terme, il faut le faire. T'as plusieurs choix au repêchage, t'as de l'espace sous la masse salariale. Regarde, travaille ta date limite, même si on sait qu'on fera pas, il y aura pas de série cette année, mais commence à préparer l'avenir parce qu'on sait que durant l'été, c'est tranquille.
Je ne demande même plus combien de points sur la possibilité de points qui s'offre aux Canadiens dans la prochaine semaine.
Ça serait une bonne
idée de gagner contre Ottawa, je dis ça comme ça.
ça serait une bonne idée de gagner contre n'importe qui, là, tu sais.
Sur ça, les gars, il va se passer quelque chose de bien spécial à Saint-Hyacinthe ce soir avec le retrait, non pas d'un chandail d'un ancien Gaulois, mais de deux gars qu'on a appris à découvrir ensemble à travers leurs nombreuses initiatives et dont l'amitié remonte à leurs jeunes années de hockey, c'est-à-dire Bruno Gervais et Maxime Talbot, qui seront honorés ce soir par l'organisation des Gaulois de Saint-Hyacinthe. On va retirer leur chandail simultanément. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du hockey, sûrement quelque part. Là, peut-être que les Sedins vont vivre ça un jour à Vancouver. Bruno et Maxime ne sont pas des jumeaux, mais on pourrait presque dire qu'ils en sont d'une certaine façon. Les gars, Maxime est au bout du fil. Salut Maxime!
Salut, ça va très bien. Non, on n'est pas jumeaux, je vous le confirme. On a un peu différent, mais on est comme des frères, je te dirais. Là, on s'est rencontrés, on avait 11-12 ans, là, on jouait à tombe ensemble. Donc, ça fait longtemps que je connais Bruno, puis c'est vraiment spécial et tout un honneur d'avoir la chance de vivre cet événement-là ce soir avec mon meilleur chum, Bruno.
Ouais, vous êtes proches, hein? Je pense que vous avez même eu une fondation ensemble. T'es le parrain, je pense, de son enfant aussi, ou...
Exact. On a vécu un petit peu les mêmes choses, hein? On a joué à Tombe, puis oui, Madame ensemble. Le Midget 3, on avait joué quelques matchs ensemble, on avait remplacé mon année parce que nos gilets sont retirés pour différentes saisons, moi 99-2000, lui 2000-2001. Puis après, on a fait nos années juniors où on est resté en contact et les deux, on a joué 6 ans, moi à Pittsburgh, lui à Long Island. Après ça, il est venu jouer à Philadelphie avec moi, donc j'ai eu la chance de jouer dans la même équipe que Bruno au niveau de la Ligue nationale. Puis après Colorado, lui est en Europe. Moi, j'ai été aussi en Europe après Boston. Là. Donc, nos chemins se ressemblent beaucoup. On a débuté notre fondation là, parce qu'on avait 21 ans de la fondation Gervais-Talbot. Où ce que
avec le tournoi de golf, Maxime, ça?
Exact. Oui, on a fait ça 8 ans. Là, on a pris un petit répit. On a fait 6 enfants à 2. Puis là, on va recommencer là, cette année, justement, là, la fondation Gervais-Talbot, différents petits événements. Donc, c'est un frère pour moi, puis de vivre le moment ce soir à ses côtés va être assez spécial.
Je lui ai parlé hier à Bruno, qui me racontait, donc vous avez joué un tout petit peu, hein, 5-6 matchs ensemble dans le Midget 3, parce que je pense que tu es un an plus vieux que Bruno. Et Bruno me disait qu'en fait, il a été marqué par ton passage dans le Midget 3. Vous jouiez, je pense, contre Sainte-Foy. Dans les séries, vous aviez perdu dans le match ultime et dans l'autobus, quand vous êtes revenu, semble-t-il que tu aurais pleuré tout le long. Ça a beaucoup marqué Bruno, en fait. Comme quoi, tu es un compétiteur acharné, même dans la défaite.
Soit un compétiteur ou juste pleurnicheur, je sais pas. Mais oui, j'étais un gars intense. J'ai toujours été, et même justement cette année-là, Midget, je me rappelle, mes parents étaient venus me voir à Magog pour un match. Puis, il faisait le chemin, puis il se déplaçait. Après le match, on a perdu par un but, je pense, et j'étais fâché. J'avais même pas été les voir après le match. Puis, donc, ça n'a pas passé avec mes parents. Là. Ils m'avaient chicané beaucoup, puis j'ai plus jamais refait ça. Là, on s'améliore aussi, on évolue, mais c'était le style de joueur que j'étais et que je suis encore comme personne, quelqu'un de passionné qui s'en fait beaucoup quand il y en a quelque chose. Puis Bruno était là à mes côtés et on a vécu beaucoup de choses ensemble.
Maxime, tu parles des larmes et des pleurs ce jour-là, puis je dois t'avouer que toi, tu m'as beaucoup ému et tu te souviens sans doute pas de l'occasion, mais tu te rappelles peut-être qu'au mois d'août 2011, tu as participé au sommet du hockey québécois au Forum. Oui. Tu te souviens de ça? Tu avais fait une allocution lors de la séance d'ouverture le vendredi
avec
soir.
Avec Joël Bouchard.
Exactement, avec Joël Bouchard. Puis moi, j'étais là, j'ai assisté à ça. Et Maxime, je dois t'avouer que ce que tu as dit à ce moment-là, j'en ai eu des frissons dans le dos, parce que je veux raconter aux gens, Mario, Alex, qu'est-ce
Bien
que
sûr.
Maxime a dit. Maxime s'est mis à raconter comment il a accédé à la Ligue nationale, puis comment ça a été dur, puis tout à coup, il a dit, écoutez, moi j'ai été un choix de 8e ronde au repêchage, aujourd'hui, il n'y a même plus 8 rondes au repêchage, alors je reviens de loin. Et t'avais raconté que quand t'avais finalement obtenu un poste avec les Penguins de Pittsburgh, que t'avais appris la nouvelle, que t'étais allé te réfugier dans le vestiaire qui était vide à ce moment-là, tous les autres joueurs étaient partis, que tu t'étais mis à pleurer, puis que finalement, tu avais pris le téléphone puis tu avais appelé tes parents pour leur annoncer la nouvelle. Puis moi, je me souviens, tu pourras élaborer un peu là-dessus, mais je me souviens que quand tu as raconté ça cette fois-là, on aura entendu une mouche voler dans l'espèce de mini-amphithéâtre où la rencontre avait lieu, les gens écoutaient ça, puis tout le monde avait les émotions là, à fleur de peau.
Ouais, je me rappelle exactement ce soir-là quand j'avais jasé justement parce que j'étais à côté de Joël Bouchard aussi et cette histoire-là est vraie en passant que j'ai fait ça là, c'est des souvenirs mémorables, mais c'est drôle parce que Joël venait juste d'arrêter de jouer, puis moi j'étais au milieu de ma carrière là, on venait de gagner la Coupe Stanley deux ans avant, puis je comptais ces histoires-là, la plupart des histoires étaient quand même positive. J'avais pas eu de grosses blessures, tout avait bien été, j'étais dans fleur de l'âge. Et Joël, lui, il venait terminer sa carrière et c'était un petit peu plus, ça vient avec des gros sacrifices, des blessures, des petits, tu sais, Joël l'a pas eu facile quand il jouait quand même, puis on avait un discours complètement différent. Mais avec le recul, j'ai pu comprendre en vieillissant aussi ce que lui a vécu plus tard. T'sais, moi, maintenant, ma carrière est finie, j'ai eu tout est très, très beau, puis ça a bien été, j'ai eu une belle carrière, je suis très privilégié, mais aller en Russie, tout ça. Donc, je peux voir avec l'âge, jusque, tu sais, il y a quand même des phases dans une carrière de joueur de hockey. Mais en gros, ce que tu dis, je suis content que tu le mentionnes, ça, que j'avais appelé mes parents, là, le premier appel que j'avais fait, j'étais très fier, tout ça. Mais ce soir, des événements comme ça, je vais avoir la chance de parler, puis je veux pas m'en anèche, même si un petit 2 minutes sur la glace et dans le vestiaire avant, au bois des Gaulois. Mais c'est ça un petit peu le message. C'est que là, j'étais en 2011 et je réalisais que les sacrifices que mes parents avaient faits pour me permettre d'atteindre la Ligue nationale. Mais là, on traverse le temps. J'ai 35 ans, trois enfants et je commence à coacher mon fils Mag. Et là, je réalise vraiment les sacrifices que mes parents ont faits. Parce que tant que tu le fais pas toi-même, on dirait que tu sais, mais tu ne réalises pas nécessairement. Mais là, à préparer des pratiques, être dans l'auto, à commencer, ma femme et moi, là, à faire le taxi, à vraiment être impliqué dans tout ça, je dis, OK, ben c'est, ils l'ont fait longtemps, puis ils l'ont bien fait, puis ils m'ont supporté, ils m'ont permis de me développer en tant qu'humain, puis je vais en dire un petit mot ce soir, mais c'est là, plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise des choses, et là, de bien avec mes enfants, ben je peux croire qu'être parent de sportif, ça implique beaucoup, puis on le fait pour les bonnes raisons.
On a fait allusion dans ce que tu racontais à Joël Bouchard, Maxime, et c'est intéressant, maintenant que tu es rendu à l'étape de ton après-carrière, je sais pas si tu vas emprunter des trajectoires semblables à celles empruntées par Joël, qui a goûté à beaucoup de choses depuis qu'il a accroché ses patins. Il a fait un passage à RDS, là où tu es, avec Bruno d'ailleurs, avec votre émission Max et Bruno, et d'autres collaborations. A goûté à bien des trucs, a fait l'emploi que Marc Denis occupe en ce moment, puis est revenu dans le hockey, a entrepris une démarche qui l'amenait à devenir propriétaire de l'armée. Mada est tombé dans le coaching. Il est maintenant à la tête du Rocket de Laval comme entraîneur. Est-ce que tu as envie de goûter à plein de choses, Maxime, ou tu te sens chez toi déjà dans un studio de télé ou même dans un studio de radio parce que tu collabores avec évidemment nos collègues du 91.9 pour ne pas les nommer, hein, c'est la réalité. Est-ce que ou t'es-tu en train de goûter à des choses? As-tu déjà une idée de fait ou tu penses à devenir propriétaire d'un club junior à Gatineau?
Très bonne question. Ça fait trois ans que tu sais, je fais beaucoup de recherches. Je m'intéresse à plein de choses. Tu sais, dans le programme de l'Association des joueurs de la Ligue nationale, ils ont un programme qui s'appelle Game Changer où tu fais un test de personnalité, tu travailles un petit peu sur ton futur et ça, c'est très bien. Je suis genre tous les joueurs nationaux de faire ça à un jeune âge, même pour se connaître soi-même, pour pouvoir avancer dans le futur. Puis j'ai fait ça, puis même si je savais que ça approchait la retraite, c'est arrivé vite. Et là, Pat Brisson m'a offert un emploi en étant agent de joueur avec CAA. Donc, je fais ça depuis le mois de juin.
En plus?
C'est ça. J'ai commencé avec ça. Dans le fond, c'est la première chose que j'ai accepté. J'ai pas pu refuser l'offre de Pat qui me dit, Max, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe. Puis, j'apprends beaucoup de lui. Et là, RDS est arrivé aussi tranquillement cet été en discutant avec eux. J'ai la chance d'animer 24 CH, d'avoir Max et Bruno tous les mardis à 16h parce que je travaille avec mon meilleur chum. Puis, on fait d'un autre angle aussi. Donc, je fais ça, je touche à tout. Je suis un gars qui veut apprendre, qui est très curieux dans la vie. Je pense que c'est important d'être curieux, puis c'est important de continuer d'évoluer. Puis je suis pas fermé à rien. Certainement, ma famille est encore jeune et je vais en profiter aussi. J'ai des enfants de 6, 4 et 2 ans. Je pense que tant ou son temps que mes plus jeunes ne seront pas rentrés à l'école, je veux comme en profiter, de passer du temps avec eux et après peut-être réengager une carrière. Je ne le sais même pas encore. Je vais peut-être faire la télé pendant 20, 30 ans. Je vais peut-être être agent de joueur.
Un n'empêche pas nécessairement l'autre non plus.
Exactement. Là, je fais les deux. Le coaching, oui, m'intéresse. L'enseignement, je me questionne beaucoup avec Bruno des fois. Autant qu'on est impliqué, on veut s'impliquer dans l'hockey mineur. On coach présentement les deux à différentes villes. On s'informe. Hockey Québec, peu importe c'est quoi, je pense qu'on est dans des positions où ce que la notoriété d'un joueur de hockey qui vient avec de joueur national, ça vient des responsabilités. Et ça vient qu'un privilège aussi où ce que on peut activer peut-être des choses et s'impliquer de différentes manières pour faire avancer des choses. Donc on est ouvert à plein de différentes choses. Et je pense que c'est ça la beauté. Je veux pas me mettre dans une boîte et dire ah ben moi, Max Talbot, c'est ça. Je veux vraiment continuer à avancer et de voir qu'est-ce qui va fonctionner pour moi et dans quelle sphère je peux aider et vraiment peut-être de développer des jeunes aussi.
Peut-être une sous-question, là, si je précise le tir sur le dossier des Olympiques de Gatineau. Est-ce que c'est un dossier actif et qui t'intéresse vraiment, dans lequel tu as entrepris des démarches?
On a discuté. J'étais avec Luc Robitaille dans une rencontre là, avant le temps des fêtes à Gatineau, justement. On a rencontré des actionnaires de l'équipe. Puis j'ai eu des discussions pendant le temps des fêtes aussi avec eux, mais c'est très présentement là, provisoire parce que sont 8 propriétaires maintenant. Et
le club est-il à vendre?
Non, pas nécessairement. Les huit sont présentement en selle et sont contents de l'être, je crois. Là. Mais est-ce que je peux dire qu'il, admettons qu'on est un petit groupe d'anciens joueurs ou
Luc Robitaille et toi
qui veulent s'impliquer, ben c'est certain que je pense qu'il y aurait des choses qu'on discute présentement et qu'on pourrait discuter pour le futur, mais c'est vraiment très au début du processus. Et je sais que Luc étudie aussi le dossier de la nouvelle aréna et tout ça. Donc on discute, on jase. Moi, j'aurais donné des conseils en tant qu'ancien joueur de mes expériences personnelles avec la Légion majeure du Québec, avec ce que j'ai vécu dans le national, dans différentes organisations, pour peut-être qu'il y ait de l'avancement dans tout ça. Mais je suis là comme conseiller, je suis là comme ancien joueur qui est fier d'avoir passé là. Mes côtés actionnariat, proprio, c'est une phase vraiment embryonnaire.
Ben Maxime, ça va être intéressant de suivre ça, mais en terminant, j'aimerais ça que tu reviennes quand même sur le plus grand match. Ben, je pense que c'est le plus grand match que tu as joué dans la Ligue nationale. Je pense que tu sais très bien celui auquel je fais allusion. Contre les Red Wings de Détroit, 7e match de la finale de la Coupe Stanley, tu marques les deux buts des tiens. Ça doit être un souvenir impérissable.
Ouais, ben c'est sûr. C'est sûr, surtout avec du recul. Parce que ça l'a fait le 12 juin 2019, dernièrement, les Blues jouaient la finale contre les Bruins. Et j'ai vu quelques amis, on était une vingtaine chez nous et ça faisait exactement 10 ans qu'on avait remporté la Coupe Stanley à Pittsburgh. Et ça passe vite, comme là je te dis, ce soir, ça fait 20 ans que j'ai pas joué au Midget 3, là, il retire mon gilet. Les années passent très vite, mais c'est un souvenir que, tu sais, quand ils annoncent ton nom, ils vont toujours dire « gagner la Coupe Stanley ». Puis ça, c'est une fierté extraordinaire. C'est pas nécessairement d'avoir marqué 2 buts ou si je n'avais pas marqué 2 buts, admettons que quelqu'un d'autre les avait marqués, on avait remporté la Coupe Stanley quand même. Ben juste d'être nommé en tant que champion de la Coupe Stanley, c'est un honneur, parce que quand j'ai dit plus tôt ce que mes parents et ma famille a permis de vivre mon rêve, ben mon rêve c'était de jouer au national. Et la Coupe Stanley est venue comme second rêve, donc je suis très choyé d'avoir touché à ça.
Juste pour bien rappeler aux gens là, qui nous écoutent, le match a pris fin 2-1. C'était à Détroit, hein, si ma mémoire est bonne.
Oui,
oui, oui.
C'était à Détroit et Maxime a marqué les 2 buts des Penguins de Pittsburgh dans le 7e et décisif match de la finale.
Je joue encore le top corner.
C'est quand même extraordinaire.
Ah, ouais, c'est quelque chose. J'imagine, nous autres, on était spectateurs. Fait que quand tu l'as marqué, et en terminant, où est-ce que ça représente quoi l'année Midget 3A, là, en termes de plaisir? Puis je te demande ça parce que souvent, je jase avec des gars qui sont devenus des légendes. Puis tu te rends compte à quel point les années juniors Midget, ça les a marqués. C'est juste une année, des fois, ou deux avec des boys. Toi, quelle empreinte ça a laissé sur toi de côtoyer ces gars-là cette année-là?
Ben, quand je réfléchis tout ça, pour moi, c'est d'arriver, t'as 15 ans, tu quittes le lit familial, là, parce que j'étais en pension, je venais de Saint-Bruno et j'allais à Saint-Hyacinthe à l'école. Puis, c'est de quitter le nid familial, c'est d'être dans une équipe, c'est de commencer un petit peu là, le hockey pré-professionnel, là, parce que tu joues hockey tous les jours avec ton équipe et là c'est de la performance. Donc tu arrives là, j'avais 15 ans, j'étais un des plus jeunes de l'équipe, puis c'était de la grosse compétition. Je me suis développé à l'école, j'étais dans un collège privé, j'étais en pension avec une famille de pension extraordinaire, puis c'est l'école de la vie qui commençait pour moi. Sur la glace, super bien été. J'ai été nommé capitaine au milieu de la saison là, pour Mario Pouliot, Simon Deshôtels. Et vraiment des bons souvenirs, une équipe extraordinaire, parce que j'ai gardé contact avec quelques joueurs dans l'équipe. Donc c'est le début du hockey pour moi, le Midget 3. Puis je parlais à Yannick Lévesque un petit peu plus tôt aujourd'hui, et c'est lui qui est président de la Ligue maintenant. Et c'est ça, hein, il essaie de plus en plus d'impliquer les anciens joueurs, puis de rendre la Ligue de plus en plus bien pour le développement, et je pense qu'il fait un très bon travail. Donc après ça, c'est les années juniors et après, ben tu commences à y croire et la Ligue nationale arrive pas longtemps après. J'ai été super choyé de justement juste jouer la Ligue nationale, c'est un privilège, mais même junior, c'est ça. C'est l'école de la vie, t'es en pension, puis tu grandis avec les expériences que tu vis. Là.
Bravo Maxime, merci beaucoup et passe une belle soirée avec ton chum Bruno. Puis j'espère que vous allez vivre de belles émotions à cette occasion-là.
Ben, merci à vous, puis c'est toujours un plaisir.
Merci les gars. Merci les gars, excuse-moi. Merci Maxime, à bientôt.
Merci les gars aussi.
Salut Max.